Merci d'écouter France Culture, il est midi et demi. Le journal est présenté par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Benoît et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, reportage en Amazonie de Mathieu Mondoloni et Eric Audra qui se sont rendus dans un village dévasté par les feux. Nous serons en ligne de Hong Kong où depuis une bonne heure, la police tire des gaz lacrymogènes contre les manifestants pro-démocratie qui depuis peu tentent d'enfoncer les barrières protégeant le Parlement. Dans le nord-est de l'Inde, publication ce matin des registres de citoyenneté qui risquent de priver de nationalité indienne deux des 33 millions d'habitants de l'état d'Assam, en très grande majorité des musulmans. Précision de Nabila Hamel. Nous nous intéresserons également à la rentrée laborieuse des Républicains réunis à la Baule. En fin d'édition, la bulle économique de Marie Viennot qui traite ce samedi de l'évaluation de la pauvreté des enfants. Hier encore, l'Institut de recherche environnementale de l'Amazonie martelait une évidence. L'incidence des incendies dans la région amazonienne est directement liée à l'activité humaine et les flammes ont pour habitude de suivre les tracés de la déforestation. Plus on déforeste, plus les feux sont nombreux, bien loin des coups de menton du président Jair Bolsonaro. Les habitants des territoires dévastés s'arment de courage et s'en remettent à leurs croyances. C'est un reportage de Mathieu Mondoloni dans un village à 90 km de la ville de Porto Velho.
Au bout d'une piste de terre de 50 km, au milieu de la jungle, des maisons de bois coiffées de feuilles de palmiers séchées. C'est le territoire des Caritiana, une tribu indigène de la forêt amazonienne. Une forêt qu'il voit brûler depuis des semaines, raconte le chef de la tribu, le cacique Antonio José.
La fumée couvre notre village et amène des maladies qui touchent surtout les enfants et les plus âgés, comme la grippe, le mal de gorge, des saignements de nez et une toux très forte. Tout ça à cause de la fumée.
Pour lui, l'origine de ces incendies ne fait pas mystère. Ce sont les fermiers qui essayent de les chasser de leur terre. Assis sous un arbre, Valdemar, 68 ans, ajuste sa coiffe traditionnelle. En toupie arikem, la langue de la tribu, il raconte son inquiétude. Cette forêt, c'est la vie pour nous, dit-il. Ce sont nos villages, nos terres, nos arbres, nos animaux. On y trouve nos médicaments. C'est pour ça que vous qui venez d'autres mondes, vous qui êtes conscients, vous devez nous aider. La forêt, c'est notre maison. Il se met à chanter, à donner de la voix pour porter celle de la forêt, une tradition caritiana, dit-il. Quand quelqu'un veut nous faire du mal, on chante cette chanson et ça le fait changer d'avis.
Reportage de Mathieu Mondoloni et Eric Audra en Amazonie. Quelques 2300 nouveaux départs de feu ont ainsi été enregistrés au Brésil par l'Institut National de Recherche Spatiale. Dans la province d'Idleb, dans le nord-est de la Syrie, le cessez-le-feu annoncé hier soir par Moscou semble être respecté. Il n'y a pas d'avions de guerre dans le ciel. Les frappes aériennes ont cessé, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. Plus de bombardements, semble-t-il. Mais il ne s'agit que d'un cessez-le-feu unilatéral. L'allié russe du régime appelle les groupes armés, dont Ayad Tahrir al-Sham, à, je cite, « se joindre au processus de règlement pacifique dans les zones qu'il contrôle ». Fin de citation. Offensive talibane en cours sur Kunduz, cette ville stratégique du nord de l'Afghanistan a été ciblée à plusieurs reprises ces dernières années. Un porte-parole de la police de cette localité prétend que des commandos dépêchés par Kaboul tentent de repousser les assaillants. D'importants effectifs de police dans l'état d'Assam du nord-est de l'Inde où vient d'être publié le registre de citoyenneté finalisé promis par le président nationaliste Narendra Modi. Près de 2 millions d'habitants de cet état frontalier avec le Bangladesh risquent ainsi de se trouver privés de citoyenneté, en très grande majorité des musulmans auxquels il était demandé de prouver leur nationalité indienne moyennant titre de propriété ou encore acte de naissance. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Ainsi, le nationalisme hindou est à l'œuvre.
Oui, sur les 33 millions d'habitants de l'Assam, 1 900 000 personnes devraient être désormais considérées comme des migrants illégaux, faute d'avoir pu prouver par des documents divers, vous les citiez, titre de propriété ou acte de naissance, qu'elles étaient établies dans cet état avant 1971. On ne sait pas encore précisément qui est concerné par la mesure, mais si l'on s'en tient à la rhétorique nationaliste du Premier ministre Narendra Modi et de son parti, partie le BJP, ce sont surtout les personnes de confession musulmane installées dans le pays depuis la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971 qui sont généralement visées. L'état de l'Assam est donc frontalier du Bangladesh et a déjà connu d'importantes tensions interethniques et interreligieuses, comme en 1983 où 2000 personnes ont été massacrées en une journée. Ces dernières années, ce sont d'ailleurs les habitants de cette région qui faisaient pression pour que le gouvernement prenne des mesures contre l'immigration en provenance du pays voisin. Mais les discours nationalistes enflammés n'ont pas cessé. Surtout avant les législatives de mai dernier, un ministre avait appelé durant cette campagne, je cite, à expulser les termites du pays. Que devraient donc devenir les près de 2 millions de personnes non enregistrées désormais dans le registre de la citoyenneté? Elles ont 120 jours pour faire appel. Amnesty International a noté que parfois leur cas s'est joué à un changement d'orthographe de leur nom. En tout cas, beaucoup pourraient désormais être arrêtés. On évoque même leur transfert dans des centres de rétention. Et il faut dire que ce recensement et ce listing des citoyens dans l'état de l'Assam pourrait être un test valable pour toutes les régions de l'Inde.
Et ainsi s'étend. Merci à vous. Merci de vos précisions, Nabila Hamel. Défendez la démocratie, arrêtez le coup d'État. Ce sont les principaux mots d'ordre des opposants à Boris Johnson, mobilisés ce samedi dans tout le Royaume-Uni contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre. Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux défilent et défilaient dans le calme dans les rues de Hong Kong pour défier ainsi les autorités qui avaient interdit tout rassemblement. Bonjour Florence de Changy.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Hong Kong. Ce calme dont je parlais est à conjuguer au passé, car la situation s'est tendue entre-temps.
Effectivement, la situation a clairement dégénéré depuis un peu plus d'une heure aux abords immédiats des immeubles du gouvernement, autour du Parlement, dans le quartier d'Admiralty. Donc, il y a eu les premiers tirs de gaz lacrymogène vers 5h20 cet après-midi, tirs auxquels les protestataires ont tout de suite répondu en jetant d'énormes cocktails Molotov. Certains qui ont créé des feux ici ou là, de l'autre côté des barrières. La police a ensuite utilisé ces nouveaux canons à eau français, dit-on. Ensuite, les jets d'eau lancés par ces canons à eau sont devenus bleus, ce qui semble-t-il, tout ça est nouveau hein, pour Hong Kong. C'est ce qui se passe quand on ajoute un genre de colorant qui aurait un effet marqueur sur tout ce qui l'atteint, y compris les gens. Quelques minutes plus tard, on a vu des nouvelles équipes de policiers anti-émeutes arriver des deux côtés, les uns de Central, les autres de Wan Chai, pour en fait prêter main forte aux équipes postées à Admiralty. Et on en est là pour le moment dans une situation très tendue qui a vite dégénéré, donc après une journée, comme vous le disiez, de désordre plutôt calme, puisque depuis le début de l'après-midi, les dizaines de milliers de Hongkongais étaient descendus dans la rue paisiblement pour exprimer effectivement leur désapprobation du gouvernement et leur soutien au mouvement de contestation. Puisque après les événements d'hier, notamment la vague d'arrestation et l'interdiction de la grande marche prévue, on s'attendait à ce que les Hongkongais expriment leur colère. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer.
Merci à vous. Merci Florence de Changy, en direct de Hong Kong. En France, quand la rentrée est une épreuve, douloureuse est en effet la reprise pour les Républicains, réunis, il faut trouver un autre mot, à la Baule. Objectif, rappelons-le, nommer le 12 octobre prochain un chef et d'ici là remettre la main sur une boussole. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Stéphane, dans quel cadre exactement les Républicains vont-ils débattre ?
Écoutez, vous le disiez, ce n'est vraiment pas la foule des grands jours ici à la Baule. La salle qui jouxte le terrain de rugby où est organisée cette université d'été a été coupée en deux par de grands rideaux pour masquer les espaces vides. Tout au fond, on y a installé une estrade et devant 300 sièges pour accueillir les militants, 328 sièges exactement, et pratiquement personne n'est debout pour écouter les discours. Il y a quelques instants, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est exprimé et il a essayé de dessiner des perspectives d'avenir. Mais il a eu bien du mal à enthousiasmer l'assistance. Certes, a-t-il reconnu tout à l'heure, la défaite a été lourde aux européennes en mai dernier, mais je suis persuadé que nous aurons encore une fois la force de nous relever. L'orateur est habile, mais on se demande s'il y croit lui-même, et les timides applaudissements de l'assistance qui ont suivi n'ont rassuré personne. Et s'il y a peu de militants, il y a peu de cadres également. Outre Gérard Larcher, on y croise quelques députés, quelques sénateurs. Deux des trois candidats à la présidence du parti, dont l'élection aura lieu en octobre prochain, Christian Jacob et Guillaume Larrivé, Et puis l'ex-tête de liste du parti aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, lui aussi reconnaît volontiers que les rangs sont clairsemés. C'est vrai que les Républicains sont mal en point, avoue-t-il. Mais vous savez, poursuit-il avec philosophie, ce n'est pas seulement les Républicains, c'est tout le paysage démocratique qui est bouleversé. Et les années à venir seront cruciales pour redonner du sens à nos sociétés.
Merci à vous Stéphane Robert, en direct donc de la Baule avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Et il y a deux jours, le Comité national de l'eau réunissait une commission de suivi hydrologique. 87 départements sont soumis à des mesures de restriction d'eau. Et Yannick Poignard, c'est une dernière donnée, inspecteur de l'environnement à l'Agence française de la biodiversité, la livre. 37% des cours d'eau sur le territoire sont à sec ou en rupture d'écoulement.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et c'est le retour de la bulle économique à deux jours de l'entrée en fonction de 18 hauts commissaires affectés à la mise en œuvre du plan contre la pauvreté. Marie, vous vous intéressez à la pauvreté des enfants, surtout aux moyens de l'évaluer.
Il y a un an, le gouvernement a lancé un plan pauvreté qui se met progressivement en place et fixe un objectif chiffré de réduction de la pauvreté pour les enfants. D'ici 2022, le taux de privation matérielle des enfants devra avoir été divisé par deux. Aujourd'hui, 14% des moins de 16 ans sont concernés. Mais comment ce chiffre est-il calculé? À quelle privation matérielle fait-il référence? Quels enfants oublie-t-il sur le chemin? Évaluer la pauvreté, c'est complexe. Évaluer la pauvreté des enfants, encore plus. Mais c'est un sujet de préoccupation en vogue. Institutions, chercheurs, associations et statisticiens rivalisent dernièrement de rapports pour affiner les manières de l'appréhender. Commençons par le plus simple, en apparence, la pauvreté monétaire. C'est une convention dans l'Union européenne et considérée comme pauvre une personne qui dispose d'un revenu inférieur à 60% du revenu médian, soit en France 1015 euros par mois. Je vous renvoie sur la page de la bulle pour plus de détails sur tous ces calculs. Les enfants étant considérés sans revenu propre, un enfant pauvre pour l'INSEE, c'est un enfant qui vit au domicile d'un ménage pauvre. Il y a 8 700 000 personnes pauvres en France et parmi elles donc 2 760 000 ont moins de 18 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 1 million de pauvres en plus depuis la crise financière et que les plus démunis, quel que soit leur âge, ne sont pas comptabilisés. Pour l'INSEE, un ménage vit dans un logement. Donc tous les enfants qui vivent à la rue, dans des centres d'hébergement d'urgence, à l'hôtel, dans des bidonvilles, mais aussi les enfants placés dans des foyers, des centres pour handicapés, les enfants en prison, en centre de rétention parce que sans papier, tous ces enfants ne sont pas comptés dans les 2 760 000. Cela peut expliquer que les responsables politiques arrondissent à 3 millions d'enfants pauvres, mais avouez, 240 000 d'écart, cela fait beaucoup d'incertitudes sur le nombre d'enfants invisibles pour la mesure monétaire. Ces enfants, hors ménage classique, font l'objet d'autres enquêtes. Mais les données à leur sujet sont éparpillées et elles peinent à analyser les parcours et donc la façon dont les politiques contre la pauvreté infantile améliorent concrètement le sort de ces enfants qui en ont le plus besoin. Le Comité des droits de l'enfant de Genève recommande d'ailleurs régulièrement à l'État français d'améliorer son système de collecte des données sur les enfants. L'autre écueil de cette mesure monétaire, c'est qu'elle ne dit rien des conditions de vie des enfants. Un ménage pauvre peut très bien préserver ses enfants des privations. Il existe donc un autre indice, le taux de privation. C'est ce taux que le gouvernement s'est engagé à diviser par deux pour les enfants. Pour le calculer, l'INSEE définit 9 besoins primordiaux. Chauffer son logement, partir en vacances au moins une semaine, avoir un téléviseur, une voiture. Que 3 critères sur 9 ne soient pas satisfaits, le ménage est considéré en privation et ses enfants avec. Mais quid des besoins des enfants, de leur privation à eux? Pour mieux les cerner, Eurostat a développé un nouvel indice centré sur les besoins spécifiques de l'enfant. Peut-il inviter des amis à la maison? A-t-il un endroit calme pour faire ses devoirs? 13 questions qui n'ont du coup rien à voir avec celles qui permettent de mesurer le taux de privation actuel. Dans sa prochaine collecte de données, l'INSEE va calculer ce nouvel indice européen centré sur les privations des enfants en France et publiera ses résultats en 2022. Justement, au moment où le gouvernement évaluera l'impact de son plan. Il faudra donc être attentif à l'indice qu'il utilisera, version remaniée ou pas, pour pouvoir comparer. Pourvu qu'on s'en souvienne, car 2022, c'est loin et le débat public friand de chiffres l'est généralement beaucoup moins des méthodes qui permettent de les trouver.
Ainsi se referme la bulle économique de ce samedi, à retrouver sur franceculture.fr. Les grandes lignes météo de l'après-midi, temps lourd du sud-ouest à l'est avec des orages parfois marqués sur les Alpes et la Corse. L'arrivée de pluie faible sur la Bretagne, température maximale comprise en général entre 28 à 33 degrés, 34 à 35 sur le sud-ouest. Le centre, la Bourgogne et la vallée du Rhône, 20 à 25 seulement sur la côte atlantique et sur les régions en bordure de la Manche. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili, à la technique Alice Seyed.